Ciné d'Asie, l'émission cinéma qui vous fait regarder vers l'Est. Bonjour, c'est Victor d'Histoire d'Asie et vous écoutez notre nouveau programme qui va vous faire découvrir l'extrême variété des cinémas d'Asie. Pour remplir cette mission, je me suis entouré d'une équipe de ninjas de la critique que vous allez découvrir aujourd'hui dans notre numéro 0. Bonne écoute et bonne découverte. Première émission, donc passage obligé, celui des présentations. Alors, qui veut se présenter et nous dire les raisons de sa passion pour le cinéma asiatique? Guillaume, Elisa, Julie?
Bah, très bien, bah, si tu veux. Moi, je me suis intéressé au cinéma asiatique assez tardivement, en fait, vers la fin de l'adolescence. C'est vraiment quand j'ai commencé à chercher, passionné de cinéma, j'ai commencé à chercher des films un peu partout dans le monde. Et notamment, j'ai commencé par tout ce qui est classique japonais, notamment les Sept Samouraïs, Kurosawa. Après, je me suis aussi intéressé à l'animation japonaise. Et puis, de fil en aiguille, j'ai mis le doigt, la main, le bras et je suis tombé dans la marmite, en quelque sorte. Puisque je me suis intéressé au polar coréen, au cinéma sud-coréen assez récent, puis après, ainsi de suite. Je me suis intéressé au cinéma chinois, au cinéma hongkongais, au cinéma de Chine continentale et maintenant taïwanais. Alors, notamment, je sais que pour le cinéma hongkongais, ça a été plus tardif. Ça a été vraiment de voir « Il était une fois en Chine » de Choi Ark le voir sur grand écran, qui m'a vraiment impressionné. Et c'est Barberousse au cinéma de Akira Kurosawa aussi, l'avoir vu, ça m'a vraiment... c'est là que je me suis rendu compte que Kurosawa était un de mes réalisateurs, voire mon réalisateur préféré, en fait, de voir le sens du cadrage, le sens de cette manière de placer les cadres, comment je cadre, de qu'est-ce que je cadre, dans cette manière de montrer l'action, ça m'a vraiment impressionné. Et puis le propos du film, en fait, le propos des films de Kurosawa. Et donc voilà, de fil en aiguille, depuis quelques années maintenant, je suis très intéressé par tout ce qui se fait en Asie, même si j'ai encore quelques lacunes, notamment du côté cinéma indien, que je connais très peu et que j'aimerais davantage découvrir.
Alors, moi, je me suis intéressée au cinéma asiatique, d'abord par la Corée. J'étais adolescente, j'étais très fan de K-pop et je m'étais intéressée par ce biais à ce pays, puis après par le cinéma, et plus particulièrement sur le cinéma d'horreur, thriller, polar, qui était déjà mon type de cinéma préféré.
Ah d'accord. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis d'origine asiatique et je regarde les séries surtout depuis petite et aussi j'aime bien aussi regarder les films. Pour les séries asiatiques, je les ai découvertes grâce en fait à ma famille qui ont eu en fait des cassettes VHS de séries asiatiques doublées dans ma langue, et c'est par ce biais-là que j'ai connu donc les séries asiatiques. Et puis pour les films asiatiques, je les ai connus à la télé aussi ou en DVD, ça. J'aime beaucoup les films, mais je suis avant tout plus sériephile que cinéphile. Et j'ai vu beaucoup de séries asiatiques, dont j'ai commencé avec les séries thaïlandaises et les séries coréennes, dont je les ai vues en VHS doublées dans ma langue grâce à ma famille. Et ensuite, après ça, c'était vers les débuts 2000, en fait, où on n'avait pas encore Internet. Et c'est après que, quand j'ai eu Internet, que j'ai commencé à regarder les séries asiatiques en VOSTFR. En VOSTFR, tout ça. Et donc, ensuite, après, je me suis mis à regarder des séries asiatiques, dont surtout aussi après, j'ai découvert les séries taïwanaises. J'ai découvert aussi après, regarder un petit peu les séries chinoises. Mais je suis avant tout une grande fan de séries coréennes, que j'ai vu vraiment l'évolution des séries coréennes des débuts 2000, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, où je continue toujours de regarder, surtout les séries coréennes. Du coup, je suis vraiment une spécialiste, surtout dans les séries asiatiques, mais surtout séries coréennes. Voilà.
Moi, je suis entré par le cinéma asiatique un peu par hasard, parce que j'habitais à une ville où il y avait un festival du cinéma asiatique, et du coup, j'y suis allé, j'étais au collège. Et en fait, j'adore le cinéma asiatique parce que c'est un cinéma donc qui me fait voyager. Moi, quand je vais au cinéma, généralement, j'y vais après les cours, parce que je travaille dans l'éducation nationale, et après les cours, j'aime bien aller au cinéma, et c'est un cinéma qui me fait beaucoup voyager. Alors donc, on verra plus tard quel type de cinéma, quels sont mes films préférés. Mais généralement pour ça, j'ai d'abord découvert bien sûr le cinéma hongkongais, puis après chinois. Bah, voilà, mais c'est vraiment une pérégrination sur tout le continent. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de continuer dans cette voie en répondant à cette question ô combien difficile, mais qui souvent en dit long. Alors, c'est quoi vos films préférés ?
Donc c'est vrai que à cette question-là, c'est vrai que c'est assez dur de répondre comme ça. Enfin, en fait, comme on peut pas citer plein de films non plus, il fallait bien que je m'attarde sur quelques films. Et c'est vrai que j'ai voulu prendre un peu tout ce qui pouvait m'intéresser, enfin que ce soit les différents pays, les différents genres, différents types de réalisateurs. Et donc c'est vrai que j'ai distingué un peu quatre films. J'ai essayé de me limiter à quatre films. Et essayer d'un peu développer sur ces quatre films et quatre genres, donc enfin trois genres plutôt, et quatre films pour ces trois genres. Et donc pour commencer, donc un peu quelque chose qui toucherait au côté social, historique. Alors c'est vrai que quand c'est bien fait, ça peut être absolument passionnant, en fait, aborder les questions sociales, historiques en Asie. Enfin, moi, c'est quelque chose qui peut m'intéresser particulièrement. Et donc, il y avait beaucoup de choses. Enfin, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, cinéma japonais classique, nouvelle vague hongkongaise, ou cinéma de la sixième génération de Chine continentale. Et donc, j'ai décidé de parler d'un film de Chine continentale, qui est aussi mon film préféré, qui est réalisé par Zhang Wen, qui est surtout connu pour comme acteur. Notamment, il a commencé sa carrière vous l'avez probablement vu dans les films de Zhang Yimou, tout ce qui est Sorgho Rouge notamment, ou Vivre de Zhang Yimou, mais c'est pas les films dont je vais parler d'un film qu'il a réalisé, et c'est Les démons à ma porte. Alors de quoi ça parle, Les démons à ma porte? Pour faire simple, c'est un film, alors c'est pas vraiment un film de guerre, c'est vraiment un film sur la guerre. En soi, c'est au nord de la Chine, de 1944 à 1945. On suit justement Zhang Wen, qui joue le personnage principal, Madasan, et un groupe de paysans qui sont à côté d'un blocus japonais et qui reçoivent deux colis un peu étranges par des résistants chinois. Et ils ne doivent pas les tuer, ils ne doivent pas les livrer aux Japonais, ces deux colis, qui sont en fait deux prisonniers, un prisonnier japonais, un traducteur chinois des Japonais. Ils ne doivent pas les tuer, ils ne doivent pas les livrer aux Japonais, ils doivent les interroger, et apparemment les résistants devraient revenir, sauf qu'ils ne reviennent pas. Et donc, très vite, les paysans vont devoir se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces deux prisonniers ? Et donc, ce qui est passionnant dans ce film, avant tout, c'est cette manière d'aborder un peu particulière, d'aborder la guerre sous l'angle un peu du côté tragicomique, sous le côté de la farce en fait, parce que c'est vraiment un film qui à chaque fois est sur la limite entre le côté vraiment comique mais quasiment absurde en fait, un peu comme on peut l'observer un peu avec le pitch, mais aussi avec puisque tout le film va déraper, donc on est sur quelque chose de très absurde, on est aussi sur du burlesque et en même temps sur quelque chose de l'humour noir, puisque le sujet est assez sensible. Et en même temps, il y a un côté évidemment profondément tragique, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment c'est vraiment ce sens de la tragicomédie, en fait. C'est que à chaque fois on a deux doigts, on sait pas s'il faut rire ou pleurer, ou s'il faut rire et pleurer, et il y a vraiment, ça se joue dans plein de petits détails en fait, que capte la mise en scène de Zhang Wen. Il y a toujours plein de petits détails qui font que ça rend le truc ça rend le truc à moitié comme un gros cirque, comme une grosse farce, et en même temps c'est profondément tragique. Et il y a probablement, il y a une scène vraiment de guerre en soi, et cette scène là elle traduit bien ça. Il sait ce qu'il faut filmer et quand il faut s'arrêter, en fait, pour garder le côté tragique du film, en fait.
Oui, en fait, moi, Zhang Wen, justement, tu parles du film qui est assez burlesque. C'est vrai que c'est un peu sa spécialité, parce que, par exemple, moi, je l'ai connu avec pas Les Démons à ma porte, que j'ai pas vu, mais avec Let the Bullet Fly, qui était sorti en 2012, hein, où justement, c'était une sorte de farce qui se passait dans la Chine des années 20 autour d'un... C'est un vrai western, mais assez lourd au niveau de... L'humour est assez lourd parce qu'il faut bien connaître parfois les mèmes sur Internet chinois, les blagues chinoises.
Ah ouais. Ah moi je sais que j'avais assez apprécié c'était un des trucs que j'avais apprécié aussi dans Let the Bullet Fly, même si c'est un côté plus grand public, le côté un peu duel, un peu burlesque dans Let the Bullet Fly, ça n'a un peu rien à voir, là c'est grosse digression, mais c'est ce personnage un peu de Robin des Bois que joue Zhang Wen avec qui prend la place d'un gouverneur avec Chow Yun-fat en face de lui. J'aime bien le côté un peu jeu d'image, en fait, il y a tout un jeu d'image sur qui sera le plus aimé de la population, en quelque sorte, et ça, j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Mais après, il y a un côté plus grand public, je trouve, dans Let the Bullet Fly. C'est moins radical, on va dire, que Les Démons. Tu disais, oui.
Mais sinon, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un excellent acteur, parce qu'on on a pu le voir dans le Star Wars, on l'a vu surtout, moi je l'ai surtout connu dans les films, justement dans Le Zorgo Rouge.
Oui, que j'ai pas vu, moi, ça, pour le coup.
Qui est une grande fresque c'est une grande fresque chinoise, donc de Zhang Yimou, et vraiment un très très bon film.
Ouais, en fait, ce que je trouve passionnant aussi dans Les Démons à ma porte, c'est aussi le rapport à l'humanité des personnages, parce que je sais que Zhang Wen, alors c'est un truc que j'avais vu pas mal sur internet, qu'il a été comparé à Emir Kusturica pour le rapport aux personnages très humains. Je sais pas si vous avez vu Le Temps des Gitans ou Underground, où il y a vraiment ces personnages un peu doudingues, en fait. Et alors, c'est un peu moins vrai, justement, dans Let the Bullet Fly, c'est un peu plus lissé, mais il y a encore un peu ces traces, ce genre de choses, où on a des personnages vraiment hauts en couleur. Et c'est ça qui est assez génial aussi, c'est qu'ils se concentrent sur les paysans, ils laissent vraiment de côté les résistants. Et je crois que, vu que Les Démons à ma porte avaient été censurés à sa sortie, je crois que c'est un des trucs qui avait été reproché par la censure, justement, puisque c'est adapté d'un bouquin, c'est adapté de Shang Tsun, Survivre, de Yo Feng Wei. Et en fait, le bouquin, apparemment, parle un peu des résistants. Les résistants sont quasiment absents dans Les Démons à ma porte. C'est une ombre. C'est un personnage qui s'appelle Moi, c'est tout. Et qui menace Zhang Wen au début, le personnage de Zhang Wen, Madasan. Et en fait, ce qu'on va suivre, c'est vraiment ces paysans et éventuellement les prisonniers, les personnages japonais, l'armée japonaise. Et en fait, il y a vraiment un côté pas du tout manichéen, en fait. C'est qu'on a chaque personnage est très humain. Il y a peut-être un personnage de japonais, un seul général japonais qui est vraiment, on peut pas le sauver. Lui, est vraiment détestable jusqu'au bout. Mais tous les autres personnages, japonais comme chinois, sont tous en fait, ils ont un côté assez faible, un peu pathétique, mais en même temps ils sont tous profondément attachants, profondément humains. C'est ça, c'est que il y a toute une complexité. Enfin, on n'est pas on a des personnages très humains, et on peut s'identifier. Il y a un côté un peu sur le rapport à l'occupation, on peut rapprocher ça de Paul Verhoeven et du Black Book, en fait, ou des Soldier of Orange, avec différents personnages. Et le côté, c'est pas si clair, la ligne entre résistance et collaboration, c'est assez compliqué dans les conditions où ils sont. Il y a vraiment ça. Et juste terminer sur le fait que, justement, sur certains petits détails, là c'est vraiment, ça va être un peu plus court, sur le sentiment d'urgence de la mise en scène, en fait, de Zhang Wen. Ça, c'est un truc, c'est assez unique, parce que tu parlais de Let the Bullet Fly, mais c'est vraiment très différent au niveau de la mise en scène. Je trouve que ces trois premiers films, tous ces films, en fait, sont mis en scène de manière, c'est à chaque fois vraiment très différent dans le style. Et Les Démons à ma porte, au-delà du côté des dialogues qui sont vraiment très 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 bien écrits, en fait, même quand on comprend pas le chinois, je comprends un peu, j'ai suivi quelques cours, mais même si tu comprends pas du tout le chinois, si vous comprenez pas du tout le chinois, vous pouvez sentir un vrai rythme dans les dialogues, et qui aide vraiment à comprendre, à mieux aborder les personnages. Et il y a tout un travail aussi de mise en scène de notamment toutes les scènes de réunion, je pense, entre les paysans, qui sont vraiment assez incroyables, et qui donnent vraiment la personnalité qui qui transparaît en fait, l'humanité qui transparaît de ces personnages et qui permet, enfin, certaines décisions pourraient paraître dans le film, elles peuvent paraître un peu archétypales, un peu caricaturales, mais en fait vraiment ces scènes qu'on peut voir, ces scènes de dialogue qui sont vraiment bien mises en scène, qui nous font comprendre en fait vraiment, bah, qui nous font vivre avec ces personnages en soi, bah, nous font mieux accepter ces décisions. Enfin, on se dit que ça a un sens en fait dans le contexte politique de l'époque que veut montrer le film. Ça donne vraiment un sens à tout ça. Et y a tout un propos sur la guerre assez fascinant, notamment avec le tout dernier acte. Alors sans divulgâcher, je divulgâche pas le film, mais le dernier acte, il y a vraiment tout un truc sur la difficulté de terminer une guerre et à quel point, bah, politiquement les trucs peuvent, enfin les décisions peuvent avoir du sens, peuvent être politiquement avoir du sens, mais être humainement absolument intolérable en fait. Et vraiment, je trouve qu'il réussit bien à montrer ce côté un peu schizophrène de manière assez poétique, avec une fin, alors que tout le film est très dans l'urgence, justement, avec tout un sentiment d'urgence, vraiment, on sent qu'il veut mettre ses tripes sur la table, bah, la fin est vraiment poétique, je trouve. Voilà.
Elisa, à toi ?
Je vais te détailler, j'ai eu le temps de réfléchir, détailler les films que j'aime bien. Les films d'horreur japonais, donc Dark Water, Grudge, Ring, j'aime beaucoup parce que l'horreur, cette horreur, enfin, l'horreur japonaise, pas spécialement gore, basé sur des screamers et plus sur une ambiance avec des fantômes, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce cinéma là.
Oui, c'est vrai que l'horreur japonaise, l'horreur asiatique, comme je travaille dans un lit, je travaillais dans un collège l'année dernière et du coup j'ai regardé avec mes élèves, enfin, les élèves m'ont fait découvrir les films comme Annabelle, tous ces trucs là, enfin The Conjuring. Et toutes ces choses-là, mais je n'ai jamais peur, hein, parce que les jumpscares, on les sent à des dizaines de kilomètres. Certes, parfois l'ambiance est plutôt bien faite, mais alors que les films japonais, les films d'horreur japonais, il y a toute une ambiance sur le son, sur la musique, sur les bruits qui parfois te font sursauter. Moi, par exemple, The Grudge, il y a des scènes qui me font, même si je l'ai vu, même si la série n'est pas très bonne, mais sur The Grudge 1, il y a toujours des scènes qui me font sursauter, même si je connais parfois le film un peu par cœur, mais ça me fait toujours sursauter. C'est vraiment plus stylisé que les films d'horreur américains un peu fast-food, quand même.
Pour ajouter que oui, bah, je suis totalement d'accord sur, en tout cas concernant Hideo Nakata, que personnellement j'avais découvert adolescent, justement en termes d'horreur, de films d'horreur avec une ambiance, oui, c'est très sympathique. Après, je connais pas des masses les films d'horreur à ambiance, je connais un peu les trucs gore côté hongkongais, mais la catégorie 3, tout ça, mais côté ambiance japonais, à part quelques films, je connais pas extrêmement, à part surtout Hideo Nakata, que j'apprécie.
Moi, je suis pas très horreur, du coup, j'en ai pas vraiment vu, que ce soit américain ou japonais. Je suis beaucoup plus thriller, et du coup, ce qui me fait peur, c'est beaucoup plus le suspense. Moi, c'est plus, et j'ai sursauté plus, je sursaute assez peu, plus dans un thriller fantastique, romance, qui est pas du tout horreur, en plus. Du coup, et oui, et aussi parce que Elisa va en parler, mais du coup elle a mentionné Vengeance de Park Chan-wook, des films thriller coréens. J'ai oublié de rajouter, je suis très thriller, mais je suis plus thriller de séries coréennes que j'ai pas vu, alors que je connais vraiment de nom aussi des thrillers policiers de films coréens qui sont très connus, tout ça, Old Boy, tout ça et tout, mais je suis pas très film. Et en plus, ce qui me gêne aussi dans les thrillers films coréens, c'est qu'ils sont beaucoup plus gore. Je n'aime pas le gore.
D'accord. Justement, puisqu'on est dans le gore, alors toi, justement, Elisa, tu voulais parler de J'ai rencontré le diable.
Oui. Le film thriller, oui. Là on est plus sur le cinéma donc coréen. Donc avant je voulais d'abord revenir sur la trilogie Park Chan-wook. Là en revanche on est plus sur du gore, mais ce que j'apprécie beaucoup dans ces films c'est le malaise qui est retranscrit à l'écran. Par exemple, il y avait un film qui s'appelait Les Trois Extrêmes, donc de Park Chan-wook. Comment il s'appelle ? Takeshi Miike, oui, et un réalisateur hongkongais.
Et Fro Chan.
Voilà, bah, ce genre de film me plaise tout particulièrement. Ce mélange entre gore, thriller et les limites de ce qui est montrable à l'écran, enfin, c'est vraiment... j'aime beaucoup.
Ok, pour moi, c'est un contrat de moi. Non, moi, c'est le gore, je peux pas supporter pour le voir, en fait, parce que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Et je veux pas voir ça, disons, et me remémorer ça, en fait. Du coup, parce que moi, je peux me remémorer des scènes de genre d'exaspère, en fait. Il y a des scènes qui me reviennent d'exaspère, mais ça va, en fait, c'est des petits trucs. Et alors que j'ai vu petite, en fait, et ça me revient comme ça, en fait. Ah, c'est quel épisode, mais c'est pour ça que je peux pas regarder du corps, parce que ça va me retenir, j'ai mémorisé ça depuis longtemps, du coup, je peux pas. Et je ferme les yeux dans les trucs. J'aime pas le corps comme ça et les trucs chirurgicaux aussi. Non.
Julie, toi, quelles sont tes. Dis-nous quelles sont tes séries préférées.
Mes genres préférés sont plus les thrillers, policiers, mais j'ai commencé par regarder surtout des romances. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup adoré surtout les séries coréennes. Parce que avant, en fait, ils étaient beaucoup, surtout au début des 2000, très romance et très drame. Et j'adorais ça aussi. Du coup, voilà, je suis très romance, policier et comédie aussi. Je voulais commencer par présenter une série qui s'appelle The Girl ou Six Men. En fait, c'est une série mélange de genres entre policier, romance, fantastique et comédie. Et donc ça parle d'une fille. C'est Che Eun-sol. C'est une fille en fait qui a la capacité de voir les odeurs suite à un accident en fait, parce qu'elle a été renversée par une voiture. Mais en fait c'est sa famille, son père et sa mère et son père, ils ont été assassinés par un tueur. Et donc après en échappant à ce tueur, elle a été renversée par une voiture et donc elle est à l'hôpital. Et puis après, c'est là qu'elle a découvert qu'elle voyait qu'elle avait un pouvoir sur de voir les odeurs. Et donc, grâce à son œil. Et il y a trois personnages. Il y a ce personnage-là, ce personnage féminin qui a ce pouvoir de voir les odeurs. Et ensuite, elle va aider un policier qui s'appelle Che Moon-kak. Et lui, il résout les enquêtes, tout ça. Et il y a un tueur, en fait. Il y a un tueur en série. Et ce tueur en série, il est très unique parce qu'en fait, il a un handicap, là. Et c'est pour ça que cette série-là, ça m'a vraiment intéressée. T'as la fille qui voit les odeurs, qui a un pouvoir fantastique, qui va aider le policier à résoudre des enquêtes, mais le tueur en fait est très intelligent et en plus il a ce handicap là qui reconnaît pas les visages et c'est un psychopathe qui est intégré aussi dans la société disons et du coup il cache en fait son visage. Il paraît très très gentil en fait, c'est du genre il paraît très gentil et tout, mais en fait il n'a pas du tout d'empathie.
D'accord, mais Julie, moi je connais très peu les dramas coréens parce que justement, je trouve que les dramas coréens, ils sont un peu tous tournés un peu de la même façon. Il y a des twists de fin d'épisode qui sont toujours un peu, on va dire, tirés par les cheveux. Il y a toujours des romances toujours improbables et aussi des découvertes un peu où celui qui est mort n'est pas mort. C'est un drama qui coche où il y a vraiment tous les aspects du drama coréen ou pas?
Après, je ne sais pas si toi, il pourrait te plaire, mais en tout cas, il pourrait plaire aux gens qui aiment les policiers, la romance, parce que je vois que tu aimes pas trop la romance, mais oui, il y a des romances.
Non, c'est pas que j'aime pas la romance, mais disons que la romance dans les séries coréennes, c'est toujours justement avec le secret. Bon, parce que bon, moi, il y a des gens qui a déjà vu des dramas coréens. Guillaume, Elisa.
Alors moi je ne suis pas du tout familier des dramas coréens, mais je regarde assez peu de séries de manière générale. C'est plus le cinéma moi que je connais bien.
Moi en fait le seul drama coréen que j'ai vu complètement, C'était Iris. Tu vois, là, c'est Iris, c'est de l'espionnage avec de la romance, avec pareil des secrets, avec une personne qui est amnésique, un espèce de triangle amoureux. Et justement, dans les dramas coréens, moi, c'est la partie romance que je trouve tout le temps, qui est tout le temps un peu vraiment tirée par les cheveux, où tout de suite, ça tombe amoureux, il y a un secret qui empêche.
Ah, mais ça dépend, en fait, ça dépend juste des scénarios et puis de certains dramas, parce que dans Iris, je me souviens pas qu'il y a un secret, mais après, si la fille, ouais, elle est amoureuse de l'agent secret, que après il va se faire piéger et tout ça, mais après c'est plutôt espionnage, alors que The Girl Who Six Men, c'est pas du tout espionnage, c'est vraiment carrément policier, romance. Mais dans The Girl Who Six Men, il y a pas de secret à part qu'elle a ce pouvoir de pouvoir de voir les odeurs, quoi, au lieu en fait de sentir les odeurs, elle les voit en fait. Et donc il y a ça, ils sont pas amoureux tout de suite, ça se fait vraiment naturellement en fait, c'est bien développé, et ils tombent pas tout de suite amoureux, il y a pas de triangle amoureux dans celui-là en tout cas la romance elle est assez légère en fait. Si on suit beaucoup plus le côté dans The Girl Who Six Men, le côté policier en fait, le côté est-ce que le tueur va être arrêté, en plus c'est vraiment un tueur intelligent.
Et c'est en combien d'épisodes?
C'est ça, 16 épisodes.
Ah, 16 épisodes, donc c'est assez court. Ton drama préféré, donc The Girl Who Six Men. Pour mes films préférés, alors moi j'ai surtout parlé, parce que moi comme j'ai vécu en Chine, comme premier film préféré...
Ah, moi j'ai vécu, en fait, j'ai fait un semestre là-bas en fait, de 6 mois là-bas.
Et moi je devais y aller cette année, mais bon, Covid oblige, j'y suis pas allé du coup.
Et donc, moi, mon premier film préféré, ça va être la filmographie de Jia Zhangke, parce que, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un cinéaste, on va dire, le maître du cinéma social chinois, où toute son œuvre, en fait, c'est de montrer les évolutions de la Chine, à la fois avec des histoires, parfois des histoires d'amour, des histoires sociales qui peuvent être très très dures. Enfin, mais son film préféré, moi, mon film préféré, c'est Still Life. Alors Still Life, il est sorti il y a même presque une dizaine d'années. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai habité à Wuhan dans le Hubei. C'est à côté et à Wuhan il y a le fleuve Yangtze et c'est proche justement du barrage des Trois Gorges où se passe le film. Jia Zhangke donc met en scène donc cette histoire d'amour, cette femme qui recherche cette histoire d'amour justement. Le long du Yangtze, dans la région du barrage des Trois Gorges, avant et après que le barrage soit mis en place, il y a toujours, dans Jia Zhangke, il y a toujours cette histoire de la Chine hein, qui avance, cette modernité qui avance, et aussi ces personnages qui sont pris dans la modernité chinoise. Une filmographie, alors j'ai vu tous ces films, alors certains on peut en débattre, hein, mais tout le monde dit que parfois Jia Zhangke a tendance à se répéter, que ses deux derniers films sont plus axés pour le public occidental, en parlant justement des problèmes de corruption en Chine ou des problèmes où il a tendance à se répéter. Moi, je ne trouve pas parce que justement, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il a son style, il a sa thématique, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un film différent. Même si, c'est vrai que depuis deux films, il a tendance à ne pas avouer qu'il veut faire un film d'action, un film policier. Mais voilà, des choses à dire sur Jia Zhangke.
Bah moi je sais que justement par rapport à ce que tu disais, Au-delà des montagnes j'avais été un peu moins fan, je dois dire, enfin j'en ai vu trois et Au-delà des montagnes ça doit être celui que j'aime un peu moins parce que, enfin que avec lequel j'ai le plus de mal parce que justement il y a ce côté vraiment très, je veux faire un film pour le grand public et c'est vrai que il y avait des choses qui passaient moins, je sais que toute la troisième partie un peu science-fiction, ça passait, c'est vraiment pas terrible.
Ah non, la troisième partie est complètement ratée.
Voilà, on est d'accord. Mais même s'il y avait des choses intéressantes, mais voilà, ce côté un peu, j'essaye de faire un film plus grand public pour être plus diffusé, j'avais un peu de mal. Après, des autres que j'ai vus, comme dit Still Life, bah, t'as très bien résumé, et Touch of Sin, j'aime beaucoup aussi.
Et aussi, moi, un autre que j'aime aussi très bien, c'est The World, qui se passe justement dans un parc d'attractions à Shenzhen que j'ai visité, et du coup, que j'aime beaucoup pour cette raison-là. tels les gangsters des éternels de Jia Zhangke qui viennent de trinquer, c'est le moment de passer à notre deuxième tour hein, de films favoris. Alors, qui veut commencer? Guillaume, Elisa, Julie?
Dans la catégorie un peu sociale, historique, mais là, cette fois, je vais aller du côté de Taïwan, après, parce que j'ai vu que, en fait, je regardais ce que les autres mettaient sur le chemin de fer, et pour pas répéter un peu les mêmes pays, en fait, pour pas qu'on fasse tous un peu le même pays, je me suis dit, bon, je vais essayer de diversifier un peu. Et donc, j'ai vu que il y avait rien sur Taïwan et du coup, j'ai décidé de parler d'un réalisateur taïwanais assez connu hein, Edward Yang, mais qui est souvent connu pour son dernier film II, qui est le seul que je n'ai pas vu. Et alors que le reste de sa carrière est passionnant aussi. Et notamment le film dont je veux parler qui est mon film taïwanais préféré qui est A Brighter Summer Day. Et moi, les films, tout ce qui est teen movie, d'habitude, je suis pas ultra fan ou film sur l'adolescence, mais celui-là, je le trouve magnifique. Alors, il fait presque 4 heures quand même, donc faut avoir du temps. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que avec cette histoire, en fait, on suit un adolescent qui, à l'époque des guerres, des conflits entre gangs à Taïwan dans les années 60, donc à l'époque des terreurs blanches aussi et du pouvoir nationaliste plus autoritaire. À cette époque-là, on suit un adolescent qui essaye de suivre un peu sa route et qui tombe un peu dans une sorte de spirale de la violence, puisqu'il va être au contact de la violence de ses gangs et donc de la violence du système autoritaire. Et en 4 heures, c'est absolument passionnant, c'est toute une grande fresque. Edward Yang, il y a tout un sens de mettre en scène un peu la petite histoire dans la grande histoire de Taïwan avec tous les petits détails, l'après-guerre, puisqu'on sort de, enfin, on est moins de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y a tout le régime en place, il y a les codes sociaux aussi, et donc il y a ces gangs avec notamment une scène de règlement de compte au milieu du film qui est absolument incroyable, qui est filmée comme un Wujiapien, comme un film de sabre chinois. Avec tout un jeu sur la lumière qui est absolument sur justement qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas dans ces scènes de violence, justement, puisque il en montre très peu, mais ce qu'il montre, c'est ce peu qui va marquer cet enfant qu'on suit grandir, qu'on suit aussi voir ses premiers amours, ses premières frustrations, et donc peu à peu perdre pied vis-à-vis de ce système, en fait, et peu à peu craquer et tomber un peu dans la violence.
C'est vrai que Edward Yang, moi, j'ai juste vu Yi, en fait, qui est son plus connu, et en effet, son dernier film, parce qu'il est mort assez précocement. Yi, vraiment une très très belle histoire familiale, justement, avec toute cette famille, avec tous ces amours qui se délitent, avec tout Taïwan en toile de fond. Vraiment un cinéaste dont je connais aussi vraiment peu la filmographie, mais en effet à suivre, et que je ne connaissais pas en effet. Bryce Summerdale, je ne le connaissais pas.
Justement dans sa filmographie, je vais recommander plusieurs films, enfin je vais parler là, je vais pas tout développer évidemment, mais s'il y a quelques films à découvrir vraiment, Brighter Summer Day donc sur tout le Taïwan de l'époque, le système un peu kafkaïen des terreurs blanches, et en même temps cet enfant et son rapport à la violence, son rapport à l'adolescence aussi, dans le Taïwan des années 60, qu'est-ce que c'était Taïwan qui évoluait dans les années 60, mais il y a aussi That Day on the Beach, qui est un film magnifique sur une femme, et justement comment une femme va devenir indépendante, en fait littéralement va s'émanciper de sa famille d'abord, et puis de son mariage après, parce qu'en fait elle va devenir femme au foyer, et elle va se rendre compte que sa vie, la vacuité de sa vie, et donc il y a toute l'émancipation de cette femme, c'est vraiment magnifique, That Day on the Beach, c'est un film très peu connu, il y a, je sais pas, 30 notes sur Sens Critique, en France par exemple, mais c'est un film magnifique, et The Terrorizers.
Voilà. Je vais parler comme deuxième film favori. Alors, c'est une série hongkongaise, parce que moi, je suis très amateur des grandes sagas mafieuses de triades d'Hong Kong. Alors, j'ai pas tous les développés, mais c'est vraiment pour moi une grande saga de mafieux vraiment qui est culte. C'est la série Young and Dangerous. Donc, c'est une série de 5 films. Alors, il y a 5 films canons et une multitude de films, de spin-off, de parodies, parfois d'histoires parallèles. Mais en tout cas, c'est 5. Alors, c'est une série qui est assez particulière dans l'histoire du cinéma hongkongais. Alors déjà, c'est pas un blockbuster, hein. Mais c'est une série qui, en 1995, qui démarre en 1995, et en fait, elle a eu le... elle a lancé en fait toutes les beaucoup de jeunes stars hongkongaises, Hecking Chan, Jordan Chan, des acteurs qu'on voit beaucoup dans les polars hongkongais. Et alors en fait, alors qu'est-ce que c'est que cette série cette série de films? En fait, c'est une bande de jeunes de triade. Alors la série était beaucoup accusée de donner un aspect cool aux triades mafieuses d'Hong Kong. Parce que on est vraiment des années 90, donc tout le monde est beau, tout le monde a des, y a les pecs qui ressortent, tout le monde avec la grosse voiture, ça drague les filles. Et à côté de ça, ils font des crimes, hein, il y a du racket, il y a de la prostitution, il y a des règlements de compte à la machette. Mais le réalisateur aussi, parce qu'il faut savoir que le réalisateur, c'est Andrew Lau. Andrew Lau, on le connaît beaucoup parce que c'est lui qui a réalisé la trilogie Infernal Affair. Et Andrew Lau, il y a un aspect documentaire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série, c'est qu'il filme le Hong Kong des années 90 avec les événements de rue, les restaurants, les néons le soir. Ce qui fait que le film est très très intéressant à regarder parce que c'est un Hong Kong qui a complètement disparu. On a surtout des épisodes qui se passent dans les cités dortoirs d'Hong Kong, dans les endroits généralement on voit pas beaucoup dans les films. Et la galerie de personnages est aussi très intéressante parce qu'on les voit tous évoluer. Alors au départ, c'est vrai que la série au départ c'est un peu venez les jeunes garçons, soyez des membres des triades, c'est cool, vous aurez des filles, vous gagnerez de l'argent. Mais au fur et à mesure de la série, sans doute à cause de la rétrocession, il y a un côté après tout, ils vont parce que petit à petit, ils vont quand même payer leurs crimes, que ce soit dans la solitude, que ce soit par la mort de copains, etc. Mais c'est vraiment moi une série que j'adore parce que il y a tout un Hong Kong qui a disparu. On a vraiment les grandes stars de l'époque. Il y a aussi beaucoup de musique et aussi elle a su être progressive sur certains points parce que sur un spin-off en particulier. C'est Portland Street Blues en 98 où on voit une chef de gang qui est en fait lesbienne. Voilà. Des gens ont vu cette série ou pas?
Pas du tout.
Non. Ah, pas du tout. Non, bah c'est. Alors elle est visible. Alors pour être vrai qu'elle est encore assez difficile à trouver. On peut la trouver sur le Netflix hongkongais si vous avez un VPN. Mais sinon, vous pouvez regarder le premier épisode. Alors, pas la peine de regarder toute la série, mais le premier épisode donne une assez bonne idée.
Moi, bon, je vais parler rapidement de le titre en français. Ça y est, j'ai oublié. J'ai rencontré le diable. Voilà. Un film très intéressant. Bon, déjà, si on aime le polar et les thrillers. C'est un film qui retrace une chasse à l'homme d'un tueur en série. Et la personne qui traque ce tueur en série commet des exactions tout le long de ce film. Et ce film questionne en fait la relativité du bien et du mal en fonction de qui le commet. Et je trouvais ce film très intéressant sur la perception qu'on peut avoir. Quand à la fin du film, on ne sait plus vraiment qui est le tueur, comment on peut dire, qui est le pire en fait entre les deux personnages.
Ouais, bah moi en fait, moi si tu veux, je l'ai vu et je t'avoue, j'ai pas beaucoup aimé.
C'est vrai.
La violence était trop gratuite en fait. Parce que c'est vraiment un film. Alors les acteurs sont très très bien, hein, parce que les acteurs sont très très bien. On a vraiment, c'est avec deux stars en pointe du cinéma coréen, donc c'est vraiment très très bien joué, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'estomac assez bien accroché parce que justement les meurtres sont assez sanguinolents, la violence est assez gratuite, c'est très froid, c'est une histoire de vengeance aussi. Et après on sait plus vraiment qui est le tueur, qui est vraiment, c'est ça, qui est le pire. Mais donc moi c'est le côté, c'est pas que j'aime pas le gore parce que je regarde parfois des films gore aussi, mais là j'ai trouvé que il y avait trop de violence gratuite et parce que vraiment les meurtres parce que vraiment le tueur tue pour tuer et ça peut tomber sur n'importe qui. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé.
Je sais que moi, de mon côté, c'est un de mes, enfin, c'est même le mon préféré de Kim Ji-won, donc le réalisateur. J'ai pas vu The Fool King, un des tout premiers connus de Song Kang-ho, de l'acteur Song Kang-ho, où il jouait dedans, et un de ses premiers films. Mais je sais que la plupart des films que j'ai vus de Kim Ji-won m'ont généralement laissé assez indifférent, mais il y a que celui-là, justement, où j'avais bien aimé, justement, l'ambiguïté morale, personnellement, de me compter comme Elisa.
Alors, moi, j'avais vu The Fool King. Moi, j'ai vu The Fool King, justement. J'ai vu au festival d'Ovilasia en 2000, qui était une bonne comédie, qui était à la fois une comédie dramatique et à la fois assez drôle, justement, sur ce salaryman qui se met à faire du catch pour vaincre son borrowed, enfin son borrowed, oui. Et j'en ai de très bons souvenirs. Mais j'ai rencontré le diable, moyennement aimé. Mais après, ça reste vraiment, les deux acteurs sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, c'est un gros moment d'acting. Mais moi, j'ai pas aimé l'histoire.
Non, je vais juste rajouter, j'ai pas vu le film, mais je connais le nom. En tout cas, ce que t'as décrit, Victor, moi, c'est pas vraiment fait pour moi. Pour ma deuxième série, du coup, ça va être encore policier, romance, mais cette fois avec du fantastique. Du coup, on est sur, ça s'appelle Welcome to Life. Il y a 16 épisodes, il date de 2019, du coup, il est assez récent. Et du coup, ça parle d'un avocat qui s'appelle Jensen. Et lui, en fait, il était un avocat qui défendait les riches et c'était le meilleur dans ce domaine et mais par sa faute en fait une femme était tuée par sa faute et après il a eu un peu aussi de remords et au moment où il allait remettre une preuve à une policière il a eu un accident et ensuite il est allé dans le coma. Mais le truc, c'est qu'il y a un aspect fantastique qui est qu'en fait, il va aller dans un monde parallèle. Et au lieu d'être avocat, il est un inspecteur de police qui se charge de mettre les suspects en prison, les riches en prison, tout ça et tout. Et du coup, c'est contrairement le contraire de ce qu'il faisait en tant qu'avocat où il représentait en fait les riches, les meurtriers ou les trucs comme ça en fait.
Est-ce qu'il y a une critique justement parce que généralement dans les dramas coréens, est-ce qu'il y a une critique sociale parce que justement dans les dramas coréens, parfois j'ai remarqué que quand même les familles riches, généralement elles sont toujours représentées comme très très méchantes. Hein. Est-ce qu'on retrouve cette critique dans cette série ou pas?
Oui, il y a des riches aussi méchants, mais parce qu'il y a reprend aussi des riches, mais dedans il y a aussi un tueur. Mais c'est pas c'est pas que riche qui est tué. Après, forcément, il y a des businessmen. Du coup, forcément, ça parle de corruption. Donc forcément, mais c'est un thème que j'adore, surtout la corruption. J'ai beaucoup adoré. Et puis, j'ai précisé, du coup, il y a un tueur, en fait. Il y a des affaires et il y a vraiment un tueur en série. Parce qu'en fait, dans ce monde parallèle, il y a un tueur en série. Et en fait, les trucs qui se passent, en fait, les meurtres ou les trucs comme ça, qui se passent dans son monde parallèle, en fait, après, quand il se réveille, ça va se passer dans le monde réel.
Encore une vraie recette de drama qui permet d'avoir donc des twists, d'avoir en fait beaucoup de twists. Trois coups de feu de la BO de Young and Dangerous. Trois coups de feu pour notre troisième et dernier round de nos films préférés. Guillaume, Julie.
De toute manière, ça laisse de côté. Je devais parler de soit des polars, soit de tout ce qui est film en costume. Mais du coup, je vais rebondir vu que tu as parlé de polars. Je vais rebondir sur les polars. Tiens. Il y avait, c'est vrai que j'aurais pu parler de Nouvelle Vague ou de Nouvelle Vague hongkongaise ou des films de Johnny To, mais en fait, je vais revenir sur Akira Kurosawa et le cinéma japonais, puisqu'il y a eu des polars à cette époque aussi et qui ont pas mal inspiré, notamment Parasite qui est sorti récemment de Bong Joon-ho, a été pas mal inspiré par Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa. Ici, c'est l'histoire de. Pour faire très simple, c'est un homme d'affaires qui a un chauffeur de taxi et un de leurs deux enfants est enlevé, c'est celui du chauffeur de taxi, alors que le kidnappeur espérait enlever l'enfant de l'homme d'affaires et il demande une rançon. Et le problème, c'est que le chauffeur de taxi, lui, n'a pas cet argent et que l'homme d'affaires, pour faire très simple, ça le ruinerait, en fait, de sauver l'enfant de ce chauffeur de taxi. Mais le chauffeur de taxi a toujours tout fait pour lui. Et donc, très vite, on a un film qui est fait en plusieurs parties et toute la première partie, ça va être ça. Et il y a toute une, ce qui est passionnant dans cette première partie, c'est vraiment toute cette mise en scène qui va être déployée. Tout ce côté, cette manière de montrer un peu le chauffeur de taxi qui n'ose pas demander de l'aide et le patron qui n'ose pas la donner, cette aide, parce qu'il sait très bien que c'est fini pour lui, quoi, globalement, s'il la donne. Et donc, qui n'ose pas, regarder la réalité en face, en fait. S'il ne donne pas, c'est un enfant qui meurt, quoi, globalement. C'est cette idée-là, quoi. C'est assez intéressant, vraiment, tous les jeux de caméra où à chaque fois, enfin, il y a vraiment ces deux personnages qui, en fait, dans le plan, quand il y en a un qui avance, l'autre fuit. Enfin, c'est assez intéressant comment cette idée de refuser de regarder la réalité en face parce que, bah, d'un côté, ce chauffeur de taxi, il a toujours tout fait pour cet homme d'affaires. De l'autre côté, cet homme d'affaires, il a besoin de cet argent et il ne peut pas le donner. Et donc il y a toute une tension qui se met en place pendant la première partie du film, mais ça c'est la première partie du film. Et toute la deuxième partie du film, ce qui va être très intéressant, ça va être de nous montrer Tokyo, puisque la deuxième partie du film, ça va être toute une enquête. Ça va être sur le modèle d'une enquête sans trop divulgâcher. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'il va nous montrer vraiment deux Tokyo, puisque tout va détonner avec la première partie, puisque la première partie se passait dans les locaux du personnage aisé, donc de l'homme d'affaires. Et il y a tout un jeu, notamment avec rien que sur un petit détail, sur la chaleur. C'est que on la sent pas dans la première partie du film. C'est Tokyo en été, donc Tokyo en été, il fait quand même assez chaud en fait, et on la sent pas. Et en fait, là où on se rend compte, c'est que par exemple dans le poste de police, ils sont tous en sueur, il y a un petit ventilateur, et on va voir un Tokyo beaucoup plus pauvre en fait. Et c'est là, rien que sur ce petit détail, on voit les écarts de classe, on voit un Tokyo beaucoup plus pauvre, beaucoup plus suintant, où les gens sont tous en sueur, où voilà. Et en fait, il va vraiment nous montrer deux aspects de Tokyo vraiment très différents, et ça va évidemment, ça va servir l'histoire puisque le kidnappeur est quelqu'un qui vient de ces classes défavorisées et qui voyait cette maison, notamment la maison du riche, comme quelque chose quasiment d'obsédant. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant, cette manière dont Kurosawa peut montrer ça. Et le parallèle avec Bong Joon-ho et Parasite, c'est le parallèle avec l'eau. Donc je sais pas si vous avez Parasite, mais il y a tout un truc sur la pluie. Et chez les riches, bah, c'est une petite pluie qui va bien, qui est un peu désagréable, mais rien de bien grave. Et chez les pauvres, bah, c'est l'inondation, quoi. C'est l'inondation et leur vie est détruite. Et donc il y a vraiment tout ce jeu sur des petits détails que je trouve assez passionnant sur ce petit polar. Et au-delà de ça, enfin ce polar qui est vraiment assez virtuose en fait, sur enfin en termes de tension, et puis en termes d'interprétation, puisque évidemment le chef d'entreprise est joué par Toshiro Mifune, très grand acteur qui a un charisme assez incroyable. Et le flic est joué par Tetsuya Nakadai, aussi immense acteur du cinéma japonais assez classique. Et donc voilà, c'est assez passionnant comme film, avec une fin très très viscérale.
Oui, c'est vrai que les polars de Kurosawa, c'est vrai qu'il est pas vraiment connu pour ses polars, plus pour ses films de sabre, enfin de Shambara. C'est bien sûr tous ces films comme Ran de Samouraï, Ran, Le Château de l'Araignée. Moi, j'adore Le Château de l'Araignée, qui est un copier-coller de Macbeth. Hein. Mais c'est vrai que pour ces polars, il est vraiment pas connu.
Oui, non, mais moi, j'ai dû voir tous les Kurosawa, je les ai tous vus parce que, bah, comme dit, c'est mon réalisateur préféré. Et moi, j'adore la manière dont il transmet son humanité, en fait, tout l'humanisme qu'il peut y avoir. Enfin, une misanthropie humaniste, puisque, en fait, c'est toujours un monde assez sombre, avec toujours un peu d'espoir. Rashomon, c'est un de mes films préférés, et bah, Les Sept Samouraïs, comme tout le monde. Mais ouais, il y a plein de films un peu moins connus. J'aurais pu parler aussi de Barberousse. Il y a plein de films magnifiques, ou de L'Ange Ivre, mais. Ouais.
D'accord. Elisa, Elisa, Julie, des choses à rajouter sur Kurosawa ou pas ?
Non, pas du tout.
Donc moi, comme dernier film favori, justement, puisqu'on pour faire une transition justement avec les films gore, j'ai parlé surtout de films romantiques. Et les films coming of age chinois que j'adore, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Ils se ressemblent tous parce que s'ils se passent toujours, soit au lycée, soit à l'université. D'ailleurs, c'est vraiment un genre en soi. C'est alors mon film préféré. Alors, il y a beaucoup de déchets dans ces films-là parce que ils font beaucoup d'entrées, donc bien sûr les producteurs abusent. Et si j'ai un seul film de cette catégorie à conseiller, c'est You Are the Apple of My Eyes, qui a fait un carton à Taïwan. Alors, très rapidement, on voit pendant le lycée, c'est une histoire d'amour entre la meilleure élève d'une classe avec le cancre. Bon, l'histoire paraît très simple, parce qu'on les voit vivre, on les voit s'aimer, on les voit le cancre, bien sûr, la fille va aider le cancre, mais il se passe plein d'aventures, c'est très touchant, c'est très bien joué. D'ailleurs, tous les acteurs de la série sont devenus des stars à la fois des dramas ou du cinéma taïwanais. Là, en plus, la fin, alors moi, la fin est une des pires fins pour moi de ce genre de film, parce qu'on s'y attend vraiment pas, elle prend tout le monde à rebours, et quand une fois que vous avez vu la fin de You Are the Apple of My Eyes, vous avez envie de crier non, 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 ça peut pas se terminer comme ça, il faut qu'il y en ait un 2, il faut retourner la fin, ça peut pas se terminer comme ça. Mais vraiment, les films, alors ce genre de coming of age chinois, en fait, pour moi, il m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé à l'université en Chine et il y a plein de petits détails justement sur la vie des étudiants que j'aime beaucoup, enfin qui me font toujours sourire. Ils sont pas tous bons parce que parfois c'est vraiment de la romance, on va dire, la romance à deux balles. Mais vraiment, You Are the Apple of My Eyes, c'est vraiment pour moi le haut du panier de ce genre de cinéma qui est très sensible, qui a beaucoup de succès en Chine, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a les examens, le Gaokao, ce sont les examens pour entrer à l'université, et les Chinois adorent ce type de film parce que ça leur permet d'idéaliser en fait une scolarité qu'ils n'ont pas eue. Les histoires avec les copains, les histoires d'amour, des choses qui n'ont pas eu au lycée à cause des concours. Et il y a aussi cette nostalgie où on est tous ensemble. Il faut savoir qu'au lycée, en Chine ou à l'université, tout le monde est dans sa chambre. Et tout le monde a son internat, tout le monde est à l'internat. Donc c'est un peu le moment des copains, un peu l'insouciance avant la vie future. Et c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et que je regarde toujours avec moi aussi avec nostalgie parce que je vois un peu la vie de mes anciens élèves. Et voilà, You Are the Apple of My Eyes, film taïwanais. En plus, la bande originale est aussi très très bonne.
Ah oui, j'ai un dernier parce que je n'ai pas parlé de. Oui, c'est pas un policier cette fois. c'est plus un drame fantastique. Ça s'appelle 49 Days. Ça parle d'une fille qui s'appelle Shin Ji-hun. Elle est fiancée à un gars. Elle est du genre très naïve, gentille. Après, ben, en fait, elle va avoir un accident de la route. Son esprit et son corps vont être séparés. Son corps va tomber dans le coma. Et en fait, son esprit va rencontrer un ange de la mort qui va lui dire, en fait, tu peux revivre, te réveiller, mais que si tu vas récolter, en fait, que si tu possèdes une autre humaine, et que si tu arrives à récolter 3 larmes sincères de 3 personnes qui ne sont pas ta famille biologique. Et pourquoi en fait il est intéressant et que je conseille vraiment pour voir et qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est une histoire leçon de vie pour vraiment profiter du temps présent et pour en fait vivre comme si en fait le lendemain était notre dernier jour en fait. Ça je savais déjà, c'est ma philosophie, du coup j'ai adoré ça. Il y a aussi différents points de vue, il y a aussi une intrigue super, et aussi qui m'a vraiment marqué aussi que c'est qu'en fait c'est un esprit qui possède une fille en fait, mais c'est pas vraiment un fantôme parce qu'en fait elle est dans le coma. Et aussi, du coup, en fait, la possession est super bien faite, en fait, parce qu'en fait, on distingue quand elle est possédée, quand la fille Song Yi-Yong est possédée, et quand elle n'est pas possédée. Song Yi-Yong, elle est du genre très dépressive, très froide, elle s'habille d'un genre plus masculin. Et alors que quand Shin Ji-Hyun, la fille qui est dans le coma, en fait, l'esprit la possède, elle change sa coiffure, elle change sa façon de s'habiller qui est en plus féminine, cute. Elle change aussi le ton de sa voix, en fait, sa façon de parler, elle change. Et aussi, elles ont les deux actrices, en fait, un superbe jeu d'actrices pour les deux actrices où, en fait, elles ont le même style où elles pleurent, en fait. Et on dirait vraiment que la fille, en fait, elle est possédée, que l'esprit possède la fille humaine, en fait. Il y a vraiment cette espèce de crédibilité qu'on retient, que ce soit le jeu des acteurs, l'intrigue et tout. Et aussi, dans l'intrigue aussi, c'est qui m'a marqué aussi, c'est est-ce que on peut se poser en plus cette question, est-ce que si un amoureux ou un fiancé, votre fiancé, il est dans le corps d'un autre, en fait, ou est-ce que vous pouvez le reconnaître, est-ce que vous pouvez reconnaître l'esprit et tomber amoureux de l'esprit au lieu du corps aussi?
D'accord, donc en fait, il y a tout ce côté, en fait, avec la transposition du corps et de l'esprit, en fait, il y a toute une sorte de comédie aussi qui se fait là-dessus, sur la fille qui n'est pas dans le bon corps, etc.
C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. C'est possession, en fait, mais pour récolter des larmes sincères. Non,
Voilà, ouais. Ça me fait penser à un film coréen que j'avais vu, justement, qui critiquait, c'était une comédie qui critiquait l'industrie coréenne de la chirurgie esthétique. Alors, je me rappelle plus le titre du film, mais je le retrouverai. C'est une femme qui est obèse et qui est doubleuse, en fait, de...
Ah, je sais. Oui, c'est 200 pointes poti, en fait. 200 pointes.
Oui, voilà, 200 kilos, ouais. C'est l'histoire d'une femme, justement, qui est obèse et qui fait les doublures vocales d'une chanteuse de K-pop. Parce que la chanteuse, qui est super belle, elle chante en playback. Et elle, la grosse, elle chante très très bien, mais on la met dans les coulisses. Et un jour, il y a un médecin qui décide de lui faire faire une opération de chirurgie esthétique où justement, elle devient très maigre, très très belle, et elle devient star. Et il y a toute une comédie justement sur ce changement de corps. Et personne ne la reconnaît, bien sûr, et qui était assez rigolo et assez acide justement sur le milieu de la K-pop et sur le.
Ouais, je vois. Sauf que dans Count of Death, elle change, parce que dans 200 points de beauté, en fait, elle change de corps. Alors que dans 49 Days, c'est vraiment une histoire de possession, d'esprit, en fait, de corps. Mais c'est une fantôme, mais c'est pas vraiment une fantôme, c'est un esprit, en fait. Et j'adore quand c'est pas fait, en fait, j'adore les fantômes plus dans les créatures fantastiques, c'est ce que je préfère. Et du coup, en fait, j'adore quand les fantômes sont pas mis dans l'horreur, en fait. Quand ils sont pas créés juste pour faire de l'horreur. Et dans 49 Days, c'est pas du tout de l'horreur, c'est vraiment, et c'est l'esprit, en fait, c'est une personne, c'est vraiment, c'est la fille, et puis il y a ce côté vivre au jour comme si le lendemain on allait mourir, qui vraiment m'a fait les yeux de fille. Il y a le côté suspense, il y a aussi la comédie dedans, en fait, parce que c'est un drame, mais il y a aussi la comédie, il y a aussi le suspense de savoir est-ce qu'elle va se réveiller de son coma ou pas, parce que vraiment c'est l'intrigue, c'est vraiment sur ça. Et sur aussi, est-ce que son copain, ils vont réussir à lui voler son terrain ou pas? Et aussi, est-ce que ses amis, son fiancé, en fait, ils vont la reconnaître dans le corps d'une autre? C'est vraiment ça que j'adorais. 又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结。Et c'est sur le thème final de You Are the Apple of My Eyes que nous achevons cette émission avec vos recommandations, c'est-à-dire vos films, vos séries que vous avez vues récemment sur des plateformes de VOD, ZOD ou DVD.
Oui, bah, du coup, Le Gangster, Le Flic et l'Assassin, que j'ai vu l'année dernière. que je recommande évidemment à toutes les personnes qui sont fans de thriller et de polar. Je sais pas si vous l'avez vu.
Moi, je l'ai raté au cinéma.
Moi, je l'ai vu au cinéma personnellement et je suis un peu mitigé. J'avais trouvé ça pas trop mal. Enfin, disons qu'il y a l'énergie des films d'action coréens. Enfin, quoique, c'est assez inspiré. J'ai un peu l'impression qu'il y a toute une filiation avec les polars hongkongais dans le rapport à la violence et même à l'énergie, du film de triade, en fait. Mais après, j'avais trouvé ça assez... disons que j'avais pas trouvé qu'il se démarquait trop des autres films coréens, en fait. C'est un film, à part peut-être la scène de fin, le plaidoyer un peu final, un peu original, mais je vais pas trop en dévoiler. Mais c'est vrai que j'avais été un peu mitigé. Mais j'avais trouvé ça pas mal, mais ça se démarquait pas trop du reste des productions coréennes.
Je suis d'accord, il se démarque pas forcément des autres, mais c'est vrai que parmi les films les plus récents qui étaient sortis, on n'est pas déçu en allant voir voir ce film. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans les films gangsters polars sur fond un peu mafieux coréen. C'est voilà, il y a de la violence, mais ça reste c'est pas blockbuster états-unien avec une surenchère. Non, bah voilà, je le recommande.
En ce moment, je regarde Startup, une série que vous pouvez retrouver actuellement sur Netflix. Il y a 10 épisodes de diffusés sur 16 épisodes. Il y a l'épisode 11 qui va sortir ce soir et l'épisode 12 demain, parce que c'est diffusé tous les samedis et dimanches. C'est très détente, en fait. C'est une série comédie qui est aussi un côté entrepreneurial, côté entreprise pour ceux qui veulent se créer une entreprise qui pour être dans l'optimisme. Et aussi ça parle aussi d'une histoire d'amour entre il y a un dilemme entre est-ce qu'elle va aimer celui qui lui a écrit des lettres avant qui était son ancien ami, ou est-ce qu'elle va aimer le vrai Namnoon-san qui lui a pas écrit des lettres, mais qui est comme elle, un gars qui veut créer son entreprise ici.
J'ai un peu triché, en fait. La plateforme, là, elle est très spéciale, elle va durer qu'une semaine. C'est vraiment, c'est le Festival des Trois Continents qui a décidé de, avec la pandémie de Covid-19, au lieu de faire ça en physique, puisque c'était pas possible, le festival, ils ont décidé de le faire sur Internet. Et donc, du 20 au 29, donc je sais pas, ce sera toujours le cas, j'espère, quand le podcast sortira, vous pouvez retrouver plein de films absolument passionnants sur la plateforme qu'ils ont décidé de faire à l'occasion. Et en gratuit, et pour si tant est que vous habitez en France. Et donc, il y a des films absolument passionnants, comme notamment le documentaire de Wang Bing, À la folie, qui est absolument magnifique, mais qui est absolument bouleversant et un peu terrifiant aussi, sur un hôpital psychiatrique dans le Yunnan, et assez insalubre, mais qui est... c'est incroyable, parce qu'on a vraiment... il va sans tricher, il va nous montrer différents portraits, en fait, de ces gens qui sont là-bas sans jamais les juger, sans jamais nous donner trop d'informations. Il nous laisse vraiment seul juge, en fait, de ces personnes, et il nous montre un peu leur humanité, en fait, et il nous montre toute la complexité des différentes situations dans cet endroit un peu reculé où on est aussi... où des gens un peu marginaux. Et c'est la spécialité de Wang Bing, de montrer la Chine un peu le côté un peu ceux qui sont un peu la face cachée du rêve chinois, en quelque sorte, les marginaux, ceux qui n'ont pas réussi.
Oui, ça m'intéressait, parce qu'il traite d'un asile psychiatrique, déjà, mais il n'y a pas aussi des prisonniers politiques?
Oui, c'est assez ambigu, justement. Wang Bing, il met un carton où il te dit que c'est possible, mais et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne te donne jamais les réponses. Il te montre que c'est très expéditif, la manière dont les gens sont mis là, surtout que c'est le Yunnan, donc il y a aussi ça derrière, c'est que c'est pas le meilleur des hôpitaux psychiatriques, c'est que on est vraiment dans une province très pauvre de la Chine, c'est une des plus pauvres, c'est pas une des provinces les plus riches, et ça change beaucoup de choses sur la qualité des soins, évidemment, puisque on voit que ils sont assez les traitements sont très archaïques. Et en fait, il nous dit jamais, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il nous montre ces gens-là et il nous laisse seul juge de est-ce qu'ils sont fous ou pas, est-ce qu'il fallait vraiment les éloigner de la société ou pas. Et il y a des cas où des fois ça paraît évident que oui, ou des fois ça paraît justement plus questionnable en fait. C'est vrai que des fois les gens on se dit est-ce qu'ils sont vraiment fous, mais ils nous laissent seuls juges et ils nous montrent vraiment, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils nous montrent ces gens en tant que personnes en fait dans toute leur humanité.
Et moi j'ai une question, au niveau de la qualité du film, c'est du même niveau que sa trilogie Rouille ou Les Trois Sœurs de Yunnan?
Alors à l'Ouest des Rêves, je l'ai toujours pas vu, je l'ai sur mon, enfin je devais le voir, mais j'arrête pas de retarder parce que malheureusement il dure 9 heures et c'est vrai que faut absolument que je le voie à l'Ouest des Rêves. En plus j'ai vu la dernière émission de France Culture sur Wang Bing qui avait l'air qui était passionnante et qui m'a vraiment redonné encore plus envie de voir à l'Ouest des Rails, mais ouais, Les Trois Sœurs du Yunnan, en fait c'est un de mes préférés à la folie, c'est vraiment un de mes tout préférés. Les Trois Sœurs du Yunnan c'est très beau aussi, mais je trouve que c'est encore mieux vraiment à la folie. Je trouve que il y a vraiment tout un truc sur l'humanité de ces gens et sur justement l'ambiguïté de ce rapport à la folie, parce que des fois il y a des gens effectivement ils sont vraiment fous, on le voit, il fallait vraiment les éloigner de la société, des fois c'est vraiment leurs proches qui les mettent là-bas, mais d'autres fois c'est vrai qu'il y a vraiment toute cette ambiguïté qui questionne, et puis évidemment il y a tous ces locaux et ce rapport au huis clos quoi. Si vraiment en soi c'est ça qui est génial, c'est que à la fois il triche pas, on n'est pas sur des petits effets de documentaire, il est vraiment dans un côté c'est très radical. Wang Bing, il y a quasiment pas, il y a un montage très, il laisse vraiment les scènes longtemps, c'est assez lent, il va pas faire trop d'effets de montage ou de mise en scène. C'est vraiment beaucoup plus, enfin moi c'est un des plus beaux films que j'avais vraiment, enfin il fait vraiment un film de huis clos, voilà c'est ça, il fait un huis clos sans tricher, alors qu'il triche très peu avec le montage, il réussit à faire du cinéma, il réussit à faire un film qui s'apparente vraiment à côté, il y a ces grilles, elles ne peuvent pas quitter notre regard quoi, parce que il suit, en fait on suit la structure de l'hôpital psychiatrique en question fait que tu ne peux pas quitter les grilles de ce regard, elles sont toujours présentes, et il y a vraiment il restitue bien ce sentiment d'enfermement. Alors c'est vrai que en plein confinement je peux comprendre que ça arrête des gens dans leur visionnage, parce que c'est, il y a un côté assez étouffant au film, mais c'est vraiment un film magnifique. On a aussi d'autres films lors de ce festival des Trois Continents, d'autres films chinois très intéressants. On a des films de Bigan aussi. On a le Kylie Blues, alors que personnellement je n'ai pas vu et que je compte voir, mais j'ai déjà vu de Bigan Un Long Voyage vers la Nuit qui était assez beau, notamment pour toute sa scène en 3D, son plan séquence en 3D. À voir en 3D absolument.
Oui, moi aussi. Ce Voyage vers la Nuit, oui, de Bigan. C'est vraiment super. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans. Non seulement, et on retrouve. Alors, les gens ont dit que le scénario était très embrouillé, qu'on comprenait rien à l'histoire. Mais moi, cette séquence en 3D, parce qu'il faut savoir que en fait, le film n'est pas en 3D, mais à un moment du film, en fait, le personnage principal va dans un cinéma complètement déglingué. Il met les lunettes en 3D et à ce moment-là, les spectateurs doivent mettre le film en 3D et on a pendant 45 minutes un plan séquence, un vrai plan séquence onirique au possible dans tout ce village de Kylie qui est vraiment magnifique, qui est vraiment une prouesse cinématographique. Donc vraiment, si vous pouvez découvrir les films de Bigan lors du festival en ligne des Trois Continents, allez le voir.
Oui. Je suis pas aussi probablement peut-être pas aussi fan que toi de Long Voyage vers la Nuit, mais vraiment sa partie en 3D ouais est très belle pour le coup, ouais.
Alors moi je vais dernière recommandation, moi j'ai une série et un film, une série chinoise, alors une vraie série chinoise sur la plateforme, alors c'est le Netflix chinois, c'est Ishii, alors qui est disponible en anglais et sur iPad et même sur votre PC. C'est The Bad Kid. Alors il faut savoir que les séries chinoises normalement c'est 50 épisodes, des palaces drama, enfin des séries qui se passent dans la cité interdite ou des films ou des séries de guerre qui sont assez interminables. Et là, c'est une série qui est sortie en plein été de uniquement 12 épisodes de 45 minutes. Honnêtement, je n'avais jamais vu une aussi bonne série chinoise, parce que ça se passe donc dans un petit village côtier, des enfants abandonnés, on a une histoire avec des enfants abandonnés qui sont pris dans une affaire de meurtre. Les personnages, alors d'habitude les films chinois, il y a toujours ce côté avec la censure, il y a toujours le méchant doit être très méchant et les gentils doivent être très gentils. Mais là, en fait, petit à petit, au fur et à mesure de la série, les rôles vont changer. Et finalement, les enfants ne sont plus aussi innocents qu'ils n'en sont l'air. Et aussi, c'est tourné dans un village côtier qui est très photogénique. Et les plans, il y a vraiment une vraie volonté cinématographique, parce qu'il faut savoir que les séries chinoises, généralement, elles sont faites sur 50 épisodes à l'arrache, sans vraie mise en scène. Et là, il y a tout un côté, une vraie mise en scène de cinéma, et c'est vraiment une vraie surprise. Et comme j'avais envie de calmer mes nerfs après avoir vu Mulan de Disney, j'ai mis sur Netflix Le Voyage vers la Lune, qui s'appelle On the Moon, qui vient de sortir, qui est un dessin animé en 3D, une coproduction sino-américaine, et j'étais absolument enchanté. Déjà, c'est un bon moyen pour les enfants de découvrir la culture chinoise, parce que ça tourne autour d'un conte favori en Chine à propos de l'histoire de la lune avec la déesse Shanghe. Et l'histoire, déjà, il y a plein de détails. Justement, on a reproché à Disney de pas savoir, de ne rien connaître de la société chinoise, mais là, le film, comme c'est une vraie coproduction sino-américaine. On a vraiment plein de détails dans l'animation sur ce petit village qui rappelle Suzhou. On a les fêtes de famille où justement il y a toute la grand-mère qui demande ah bah toi t'es maigre, quand est-ce que tu te maries, des choses comme ça. Et on a cette histoire qui parle de deuil, qui parle de aussi c'est très coming of age. Et l'animation est superbe. Il y a de belles chansons à la fois chantées en chinois et en anglais. Moi, je pensais vraiment que Netflix allait faire un produit assez calibré et j'ai été très, très surpris. Donc, Un Voyage vers la Lune, quelqu'un l'a vu ?
Pas du tout, mais ça a l'air super. Ouais.
Non, mais ça donne plus envie que le Mulan de 2020, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup de coproductions sino-américaines et c'est souvent une catastrophe, surtout dans le domaine du wuxiapian. Et alors que Dieu sait que j'adore le wuxiapian, on n'en a pas parlé, mais on n'a pas eu le temps, mais c'est un de mes genres aussi cinématographiques préférés, le film en costume chinois. Mais c'est vrai que les coproductions sino-américaines souvent ont tendance à massacrer ça et à en faire quelque chose de très opportuniste. Et donc là, je suis assez, ça donne envie quoi d'entendre parler d'une coproduction sino-américaine qui respecte un peu, enfin qui prend un peu son sujet au sérieux, qui fait pas juste dans l'opportunisme, un peu juste pour choper le marché chinois quoi, et faire le truc le plus calibré possible. Donc ça a l'air intéressant.
Ouais, justement, moi j'ai été très surpris de ça. J'ai vraiment été très surpris parce que je m'attendais vraiment à quelque chose pour justement attraper le marché chinois. Et il y a vraiment plein de petits détails qui font que c'est vraiment très très soigné. Bon, il y a quelques après c'est un scénario pour enfants. L'histoire peut paraître pas très originale parce qu'on retrouve des thématiques qu'on a dans les Pixar sur justement le deuil, l'acceptation du deuil par exemple. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Ainsi s'achève ce numéro 0 de Ciné d'Asie. Vous pouvez retrouver tous les films cités dans la description du podcast. Si vous avez des suggestions, des conseils et même des critiques, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @HistoireAsie sur Twitter. Enfin, si vous avez aimé ce programme, n'oubliez pas de vous abonner et de nous noter, commenter sur votre appli de podcast, à la fois pour le référencement, mais surtout pour nous encourager. Rendez-vous le 4 décembre pour un numéro spécial Mulan. À bientôt et merci de votre fidélité.